Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alain et Liliane Nedjar qui viennent nous parler des registres de Ketubot de la nation juive de Livourne entre 1626 et 1890, généalogie et itinéraires familiaux, édité par le Cercle de généalogie. Bonsoir Liliane et Alain.
Bonsoir Madame Schwartz.
Alors vous êtes généalogiste avec Gilles Boulu et Raphaël Attias, tous spécialistes de la généalogie des familles juives livourno-tunisiennes. Vous avez relevé la quasi-intégralité des actes de mariage de la communauté juive de Livourne, et ce, depuis sa création au début du XVIIe siècle jusqu'à l'orée du XXe siècle. Au total, ce sont près de 6800 ketubot que vous avez décryptés. L'objectif est ainsi d'aider les passionnés de généalogie à retrouver leurs ancêtres pour retracer leurs ascendances livournaises. Vous êtes donc parti à la rencontre des ancêtres livournais pour découvrir leur vie d'avant leur départ pour la Tunisie et reconstituer leur histoire de parcours familiaux depuis la source italienne. Il faut dire, il faut repréciser qu'auparavant vous aviez édité un livre sur la communauté juive portugaise de Tunis, dite livournaise ou Grana, et grâce à cette étude, vos lecteurs avaient pu retrouver leurs aïeux jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc la première question que je voudrais vous poser, Alain, est-ce que cette recherche précédente a été le point de départ de cette nouvelle recherche?
Oui, c'est-à-dire que lorsque nous avions terminé la recherche précédente concernant les Juifs en Tunisie d'origine livournaise, nous nous étions arrêtés pratiquement au bord de la Méditerranée. C'est-à-dire que toutes les informations que nous avions ne nous permettaient pas de remonter plus loin. Il nous a fallu pour ça se décider d'aller à la source même, c'est-à-dire à la maison mère qui était Livourne. Et un beau jour, mon épouse et moi-même sommes allés tout simplement dans la communauté, à la communauté juive de Livourne, où nous avons étudié, lu et décrypté un ensemble d'archives qui étaient d'ailleurs très nombreuses. Et c'est à Livourne même, à la communauté, que nous avons découvert qu'il existait des registres dans lesquels se trouvaient les enregistrements de tous les mariages de la communauté juive de Livourne depuis la création de la communauté à partir de 1624 jusqu'à 1890.
Alors il faut dire que c'est vraiment un travail considérable, hein. C'est pas seulement un travail de généalogiste, mais c'est aussi un travail d'historien. Elle comble un vide abyssal. Aucun travail n'avait été réalisé jusqu'alors sur la question. Elles permettent donc de retracer la généalogie livournaise, mais aussi celle de toutes les diasporas qui ont séjourné ou transité par le carrefour livournais. Liliane, combien de temps de recherche pour ces deux ouvrages?
4 ans.
Est-ce que vous pouvez les décrire? Il faut le dire, hein, qu'il y a 2 tomes. Comment ils se constituent?
Alors, le premier tome est constitué de plusieurs chapitres. Une introduction d'abord et un historique concernant la communauté juive de Livourne. Nous avons ensuite des chapitres concernant l'onomastique, c'est-à-dire l'étude des noms propres, des patronymes, ainsi que des prénoms. Un chapitre assez extraordinaire qui est, je dirais, un livre dans le livre qui a été écrit par Monsieur Gilles Boulu de Paz, qui est d'ailleurs mon cousin, puisque ma famille est également de Paz. On s'est aperçu que nous étions de la même famille par nos recherches. Et ce chapitre, qui s'appelle « Itinéraires et parcours familiaux », concerne 30 familles qui ont été choisies en raison de leur origine diverse. De là, quand je parle d'origine diverse, j'exprime par là le fait qu'à Livourne, il y avait un très grand nombre de Juifs venant de plusieurs pays. Et on a donc sélectionné ces 30 familles en fonction de cela, car Livourne concerne non seulement Livourne même, mais concerne toutes les diasporas de la Méditerranée et voire au-delà.
Alors justement, il faut insister, les registres sont écrits sur un mode bilingue, français et anglais. Elles permettent à la diaspora livournaise de s'y retrouver. Est-ce que vous pouvez dire dans quel pays essentiellement elle a essaimé?
Alors, Livourne a été, comme je vous l'ai dit, une plateforme, on dirait un hub aujourd'hui, de tous les Juifs de diverses origines, car à Livourne se sont installés des Juifs, sont passés des Juifs, se sont mariés des Juifs ou en sont partis tout simplement pour s'installer ailleurs. Et Livourne était un port très très actif et tourné vers l'international, et il s'avère que pratiquement 60% du commerce international était tenu par les Juifs. Bon, à partir de là, des liens se sont créés entre des communautés du bassin méditerranéen, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, les pays ottomans et ailleurs. tant et si bien que le sujet du du livre intéresse absolument toute la communauté. Une des communautés particulières que nous avions étudiées était la communauté juive de Tunisie, qui était venue de Livourne à partir du XVIIe siècle. Et cette communauté juive s'étant installée en Tunisie était une communauté tout à fait neuve également. Il y a un parallèle entre la communauté juive qui était absolument une communauté nouvelle en Tunisie et la communauté de Livourne qui était également une communauté pratiquement créée de toutes pièces.
Alors on peut dire aussi que la particularité de la communauté juive de Livourne était en quelque sorte une élite. Est-ce que c'est l'élite du judaïsme séfarade ? Ou est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux cette expression ?
Non, le mot élite est un petit peu fort. Je dirais que non, ce qui s'est passé, c'est que les juifs d'origine d'Espagne et du Portugal souvent étaient des personnages qui étaient lettrés, qui avaient étudié dans les meilleures universités d'Espagne. Et lorsqu'ils sont allés à Livourne, lorsqu'ils se sont installés à Livourne, après que Ferdinand de Médicis les eut invités, et par un édit qui s'appelait la Livornina, lorsqu'ils se sont installés, il est évident que c'était les lettrés qui ont pris la tête de la communauté. Je dirais que c'était déjà leur fonction, leur rang social et leur culture personnelle qui a fait qu'ils ont pris la tête de la communauté. Mais l'ensemble de la communauté juive n'était pas faite que de personnes riches. Il y avait, je dirais, un pourcentage de personnes aisées et le reste était simplement des juifs normaux comme dans n'importe quelle communauté.
En Tunisie notamment, ils avaient des synagogues particulières, un cimetière particulier. Qu'est-ce qui explique cette différence ?
Alors, ce qui explique cette différence, c'est que lorsque les Juifs de Livourne sont, par exemple, partis en Tunisie, leur niveau social et culturel était, a priori, plus élevé que les Juifs autochtones de Tunisie. En vérité, les Juifs de Livourne parlaient plusieurs langues, parlaient l'italien, parlaient l'espagnol, avaient étudié l'arabe, mais ce qui se passe, c'est que Livourne a été, atteinte positivement par ce qu'on appelle les Lumières. Or, les Juifs de Livourne se sont tournés vers cette modernité occidentale. Et lorsqu'ils sont arrivés en Tunisie, c'était déjà des Occidentaux. On les appelait déjà les Franco. Et le culte portugais, qui était un culte spécifiquement livournais-portugais, le culte portugais a été celui qui a été adopté en Tunisie par les Juifs livournais, et ce culte n'était pas le même, bien évidemment, que les autochtones. Pour les cimetières, c'est la même chose. Il y a eu une séparation entre les cimetières. Cette séparation a existé jusqu'aux années, au milieu du XXe siècle, mais pour autant, les Juifs livournais se sont progressivement mélangés avec les Juifs autochtones. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, les statistiques que nous avions établies dans notre premier livre.
D'où vient le terme de grana pour les qualifier ? Est-ce que c'est uniquement en Tunisie ou aussi dans l'Empire ottoman et notamment à Salonique où beaucoup de juifs livournais étaient accueillis ?
Non, c'est le terme de grana en réalité est une déformation du pluriel de gorni en arabe qui est une déformation de Elgorn qui signifie Livourne tout simplement. Elgorni, grana, il s'agit de juifs d'origine livournaise spécifiquement, mais c'est une appellation spécifiquement tunisienne. Autrement dit, ce ne sont pas les juifs livournais qui ont voulu s'appeler, se dénommer ainsi, c'est une appellation qui leur a été donnée à partir de la Tunisie.
Est-ce qu'on peut dire que ces registres sont quasiment exhaustifs ? C'est-à-dire que si une famille d'origine livournaise recherche un nom, elle peut retrouver ses ancêtres ?
Oui. Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé, lorsque nous avons découvert les registres, au départ, nous ne savions pas vraiment ce que nous allions avoir en main. Et au fur et à mesure de la lecture, nous nous sommes aperçus que c'était l'entière communauté depuis 1624 à 1890 que nous avions devant les yeux. Et la lecture des Ketubot nous a permis de voir qu'il s'agissait de l'intégralité, à part quelques exceptions près, de l'intégralité de tous les mariages de la communauté, et ce qui est un cas unique. Ce corpus, si vous voulez, pendant plus de deux siècles et demi, est extrêmement rare, car il est très rare de trouver en un seul lieu, en un seul moment, autant d'informations en continu concernant une communauté qui, je le rappelle, est une communauté qui a été créée de toutes pièces ex nihilo à Livourne à partir de la fin du XVIe siècle.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Alain et Liliane Nedjar, qui nous parlent des registres de Ketubot de la nation juive de Livourne entre 1626 et 1890. Liliane, comment ça fonctionne ces registres? C'est-à-dire qu'il y a un index où on peut trouver les noms de famille, et après quelles informations sont délivrées au lecteur?
Alors, en ce qui concerne les informations, ce sont bien évidemment le nom des époux, et leur père, les mères ne sont pas du tout spécifiées. Ce qui est intéressant, ce sont les signatures avec les témoins et aussi les informations dans le corpus, c'est-à-dire si l'un des deux est veuf ou divorcé. Voilà, il y a d'autres informations.
Alors, il y a un dictionnaire onomastique aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors,
l'onomastique, j'ai relevé les 12 500 patronymes présents dans les Ketubot, qui représentent à peu près 3500 patronymes. Et si l'on fait abstraction des variantes de ces patronymes, il en reste environ 1500. Sur ces 1500 patronymes, il y a environ 40% d'entre eux qui sont d'origine ibérique. Le reste étant constitué de patronymes italiens pour près de 35% et de patronymes originaires de d'autres pays, Ashkenaz, Empire ottoman, Afrique du Nord, etc.
Alors, pour que nos auditrices et nos auditeurs aient un aperçu de ces noms qui sont cités, est-ce que vous pouvez nous décrire quelques grandes familles juives originaires de Livourne?
Alors, pour les décrire précisément, là, il faudrait que ma mémoire me revienne, parce que ce que nous avons étudié, c'est l'enchaînement, si vous voulez, des familles. Précisément, les grandes familles de Livourne, certaines ont été, je dirais, étudiées par Gilles Boulu de Paz dans le chapitre concernant les itinéraires familiaux. Je n'ai pas moi-même, je dirais, la mémoire spécifique d'une famille.
Alors, quel nom vous pouvez citer?
Alors, parmi les noms de familles juives livournaises qui nous ont paru intéressantes, importantes, on peut les trouver dans la sélection qui a été faite par Gilles Boulu de Paz, dans le chapitre des itinéraires, dans lequel il a décrit une trentaine de familles venant de tous les pays, de toutes les régions, aussi bien d'Italie que d'Afrique du Nord, d'Algérie,
et même
de Gibraltar. Je vais vous donner des exemples de noms. Nous avons les familles Aboukaya, les familles Abou Daram, Aghib, Arbib, Bimbaron, Bokara, Busnak, Elaïk, Gutiérrez Peña, Lombroso, Mendes Osona, Palachi, Recanati, Soria, Torel. En vérité, ce sont des familles qui pouvaient venir aussi bien de France que de Tunisie, que des pays ottomans, voire même de Gibraltar, et bien évidemment de l'Italie même, venant de Rome, jusqu'à des familles que nous avons retrouvées venant des pays, venant d'Allemagne par exemple, et qui très souvent étaient appelées le Tedesco ou Ashkenazi.
Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'importance de la diaspora de Livourne en France? Combien de descendants? Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'il y a des associations qui les recensent?
Alors, les Juifs d'origine de Livourne en France sont généralement les Juifs qui étaient partis de Tunisie et qui se sont installés en France. Si on considère le nombre et les chiffres, la communauté juive de Livourne était une communauté qui avait atteint environ 5 à 6 000 membres, pas davantage. La communauté juive, par exemple, de Tunisie, venant de Livourne, était aussi une communauté qui comptait environ 5 à 6 000 membres. Lorsque l'ensemble des Juifs tunisiens est parti de Tunisie et s'est installé en France, il est évident que ces Juifs d'origine livournaise, qu'on appelait les Granats, eux aussi se sont installés en France. Et aujourd'hui, on retrouve des Juifs aussi bien de Tunisie que de Livourne, non seulement en France, mais dans tous les pays du monde. J'en veux pour preuve. Lorsque nous avons sorti notre livre, malgré cette période du Covid qui évidemment est une période un petit peu compliquée, nous avons reçu des commandes de plus de 20 pays, des commandes qui viennent même jusque dans les îles de Tasmanie, au sud de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Irlande, en Angleterre. Et nous sommes aperçus que les personnes qui s'y intéressaient étaient des personnes qui portaient ni plus ni moins que des noms d'origine livournaise. Et nous avons même retrouvé des membres de notre famille en Tasmanie.
Eh bien, alors ça me permet aussi de vous poser une autre question. D'après vous, à qui s'adressent ces registres? Aux spécialistes, aux originaires des familles, aux curieux?
Alors, nous avons voulu que le livre soit un livre qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas qu'à des spécialistes de la généalogie. Pour cela, nous avons souhaité que le livre soit élégant, esthétique, et nous avons énormément travaillé la joliesse, si vous voulez, du livre, pour que ce soit un livre plaisant. C'est un livre que l'on peut poser sur une table basse, tout simplement. Bon. Et le fait que nous l'ayons écrit bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais, fait que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'adresse à l'ensemble des diasporas d'aujourd'hui. Il y a des parties qui sembleraient techniques, mais pas seulement, car nous avons travaillé, nous avons expliqué les raisons et pour lesquelles cette communauté s'est créée dans un langage relativement facile, de manière à ce qu'il intéresse toutes sortes de personnes.
Oui, les historiens, les généalogistes et les familles à la recherche de leurs origines.
Alors, on l'a dit, on est en période de crise sanitaire. C'est un très bel ouvrage de gros format avec deux tomes. Comment on se le procure concrètement ?
Alors, cet ouvrage qui est en deux tomes, vous pouvez vous le procurer en allant sur le site du Cercle de généalogie juive en tapant sur www.généalogie.org. Je répète, www.généalogie.org.
Question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission pour conclure. À tour de rôle, est-ce que vous pouvez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de se procurer cet ouvrage ? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils achètent ces registres de Ketubot ?
Alors, je leur dirais que plus que jamais aujourd'hui, il faut retrouver ses racines. Le bonheur de retrouver les racines juives pendant plus de 3 siècles en continu, c'est une chance qu'il fallait saisir. Et nous donnons aujourd'hui à un ensemble de chercheurs, d'historiens, de généalogistes, la possibilité, enfin, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, de remonter jusqu'à l'origine sur pratiquement 4 siècles. Et je vais même vous donner une anecdote. Nous avons des juifs au Portugal, qui grâce aux informations qu'ils ont trouvées dans notre livre, ont pu remonter leurs origines du Portugal jusqu'à Livourne. C'est-à-dire qu'après avoir traversé la Méditerranée une première fois, nous pouvons maintenant retraverser la Méditerranée une deuxième fois et aller jusqu'à l'époque même maranique.
Oui, ce sont des Portugais qui aujourd'hui sont chrétiens, mais qui à l'origine, bien évidemment, étaient juifs. Et ils ont, grâce à ce livre, trouvé leurs ancêtres à Livourne, qui s'étaient mariés dans une église en 1686, qui avait fui le Portugal, puis s'étaient mariés à Livourne, à la synagogue, quelques années plus tard.
Alors, est-ce que vous avez un mot à ajouter pour convaincre nos auditrices et nos auditeurs ?
Ces deux livres répondent vraiment à la curiosité de tout un chacun de...
Disons qu'en vérité, ils viennent combler un vide. Ils viennent combler un vide. C'était un livre, si vous voulez, qui était attendu, entre guillemets. Ils viennent combler un vide, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'informations en continu, des informations exhaustives. Tous les livres qui ont été écrits jusqu'à présent concernant Livourne n'ont été écrits concernant le sujet des Juifs et de la nation juive de Livourne.
Merci beaucoup Liliane et Alain d'avoir décrypté avec nous ces registres de Ketubot entre 1626 et 1890 de la communauté juive livournaise. Et il faut dire vraiment que c'est un travail remarquable, on l'a dit, hein, pas seulement de généalogistes mais aussi d'historiens, et qu'on peut picorer des noms, on pourrait y passer des heures à y rechercher des informations. En tout cas, bravo, et j'espère que nos auditrices et nos auditeurs seront autant intéressés que nous quand nous l'avons découvert. Merci, à très bientôt.
Merci Madame Schwartz.
Bonsoir.